Effet du temps. Un Suédois, homme d'esprit, qui a tracé le portrait de Madame de Staël, a dit que chaque année de sa vie valait moralement mieux que la précédente. Comme le dernier de ses ouvrages est toujours le plus parfait pour le style et la composition. Puis donc que les traits que j'ai rassemblés appartiennent surtout à la jeunesse, il m'importe d'indiquer les changements qui se sont graduellement opérés chez Madame de Staël. Et d'abord, elle a eu plus de naturel à mesure qu'elle s'est éloignée de la jeunesse. À la sincérité du caractère qu'elle avait toujours eu, elle a joint de plus en plus la vérité de l'expression. Il est des âmes qui se montrent mieux à découvert au commencement de la vie. Il en est d'autres qui semblent comme enveloppées dans les brillantes vapeurs de leurs illusions. Madame de Staël a été plus elle-même avec l'âge, soit, comme elle me l'écrivait, que le succès l'eût encouragée à mettre au jour ce qu'elle appelait ses bizarreries, soit qu'elle se fût défaite de certaines formes romanesques qui voilaient sa véritable originalité. Peut-être y a-t-il eu un temps où la vie, la mort, la mélancolie, le dévouement passionné jouaient un trop grand rôle dans sa conversation. Mais quand la contagion de ses phrases a envahi tout son salon et menacé son antichambre, il lui en a pris un ennui mortel. L'affectation de ses imitateurs a constamment guéri Madame de Staël de tout ridicule. « Je marche avec des sabots sur la terre, me disait-elle, quand on veut me forcer à vivre dans les nuages. » En outre, lorsqu'elle a cessé de se placer dans le point de vue de la jeunesse, qui, pour être le plus brillant, n'est pas le plus étendu, elle a vu que les sentiments exaltés ne tenaient pas dans la vie une si grande place qu'elle l'avait cru, et elle a été mieux en accord avec tout le monde. La race humaine s'était longtemps divisée à ses yeux en deux classes, celle des êtres sensibles dont elle était, et celle des êtres froids qui ne l'intéressaient guère. Comme la statue dans Pygmalion, elle semblait dire successivement de tout ce qu'elle voyait, « C'est moi, ce n'est plus moi, c'est encore moi. » Moins jeune, elle a dit davantage, « C'est moi, de toutes les dispositions des âmes honnêtes. » De plus, par une suite de cette justesse toujours croissante, elle a su mieux apprécier les véritables biens de la vie. Elle a perdu quelque chose, non pas de sa pitié, mais de sa trop grande estime pour le malheur. Plus heureuse elle-même, elle a regardé davantage l'existence comme un bienfait. « Quand je n'aurai pas l'espérance d'une vie à venir, disait-elle, je rendrai encore grâce à Dieu d'avoir vécu, d'avoir connu et aimé mon père. » Par la même raison, elle redoutait moins la solitude et savait mieux jouir soit des beautés de la nature, soit de l'exercice de la pensée. Elle disait à son fils, en l'excitant à l'étude, « Lorsqu'il n'y a pas de malheurs extraordinaires, je ne sens aucune peine jusqu'à 5 heures après-midi que finit pour moi le moment du travail. » Elle citait souvent l'exemple de John Horne Tooke qui, dans un âge très avancé, disait à Lord Erskine, « Si vous aviez obtenu pour moi 10 ans de vie au fond d'un cachot, avec des plumes et des livres, je vous en aurais remercié. » Il ne me semble pas que les années et fait essuyer aucune perte réelle à Madame de Staël. Elle avait été, dans sa jeunesse, une improvisatrice merveilleuse, mais jamais elle n'a cessé d'employer en poète les matériaux qu'elle avait continuellement rassemblés au moyen de l'étude et de l'observation. La sphère de ses idées s'est toujours agrandie, plusieurs mondes nouveaux se sont présentés l'un après l'autre à ses regards, et ses découvertes successives ont fait naître ces divers ouvrages. Ainsi, la connaissance des tourments infligés par l'opinion a créé Delphine, celle de la nature et des arts, Corinne, celle des idées métaphysiques et de la philosophie idéaliste, l'Allemagne, celle de l'état politique et social de l'Angleterre, son dernier ouvrage. Chaque événement avait laissé un résultat dans son esprit. Chaque sentiment lui avait enseigné quelque chose. la jeunesse éternelle du génie conservait ses droits, tandis qu'elle s'enrichissait des fruits de l'âge. Le temps avait encore pour elle des trésors en réserve. Et par exemple, elle écrivait au sujet de son poème de Richard « Je crois que je ferai une belle peinture des effets de l'imagination dans l'âge mûr, cet âge où les objets qui vont bientôt s'obscurcir sont encore illuminés par les rayons pourprés du soleil qui baisse. » Mais ce qu'on a surtout remarqué chez Madame de Staël, à mesure qu'elle a fait route dans sa vie, c'est une réserve plus grande, ce sont des manières plus contenues. S'étant quelquefois mal trouvée d'avoir accordé aux indifférents le droit de la blesser, elle se laissait moins facilement aborder sur les sujets intimes. Aussi, certaines personnes lui ont trouvé moins de charme, mais il n'y avait pourtant en elle aucune froideur. Redoutant les émotions et voulant les éviter, elle avait substitué à la généreuse noblesse de son ancien abandon cette dignité qui tient les autres à quelque distance. Elle ne désirait plus étendre le cercle de ses affections et ne cherchait pas à en inspirer de nouvelles. Autrefois, elle avait dit « Il y a toujours un peu de coquetterie dans les services que rendent les femmes, puisqu'elles cherchent ainsi à se faire aimer. » Vers la fin de sa vie, elle voulait à peine de la reconnaissance, et la satisfaction de faire le bien lui suffisait. « La porte de mon cœur est fermée, » disait-elle. Et en cela, elle se trompait. Jamais aucun genre d'excellence n'a cessé d'intéresser sa sensibilité. Mais il y avait quelque chose de doux pour ses anciens amis dans l'idée de cette barrière par laquelle elle les séparait de tout l'univers. Les qualités de Madame de Staël ont pris un caractère plus solide avec l'âge, et elle a fait plus de cas chez les autres de la solidité. Toute la théorie de l'exaltation a fait place à celle de la moralité. Son estime pour les dons naturels s'est transportée sur les vertus acquises. Le courage et la résignation ont obtenu l'admiration qu'elle avait eue pour les grands mouvements de la sensibilité. Elle-même a eu plus de calme, et quand il n'y avait pas de sujet véritable de peine, elle ne s'en forgeait pas de chimérique. Il pouvait y avoir des vagues majestueuses, mais non de l'orage dans son cœur. Dans l'intérieur de sa maison, je l'ai trouvée également plus intéressante, plus occupée des autres pour eux-mêmes. Sa bonté, sa générosité s'exerçaient avec plus de prudence et moins de distraction. Ses paroles, plus mesurées, comptaient davantage. Ses éloges, plus justement flatteurs, donnaient plus de plaisir. Moins irrésistiblement entraînée par le torrent de ses pensées et de son enthousiasme, elle cédait librement au désir de persuader ou de plaire. Ce qu'elle avait perdu en vivacité se retrouvait en profondeur et en harmonie. Peut-être sa figure plus pâle était-elle plus touchante. Peut-être le brillant éclair du génie frappait-il encore davantage sur son visage un peu abattu. Et qui sait si, dans les derniers temps, quelque signe précurseur de l'orage qui allait assaillir sa vie, quelque signe dont nous craignions d'interpréter les sinistres avertissements, n'ajoutait pas au prix de ses moindres paroles et à la grande et solennelle impression qu'elle produisait sur nous. Dans une sphère plus étendue, chez les nations étrangères par exemple, elle n'a jamais produit autant d'effets que pendant ces dernières années. À Paris, on lui a trouvé une modération, une sagesse remarquable. Soutenant toujours les grands intérêts de la liberté dans les questions de politique intérieure, elle a conseillé d'observer vis-à-vis des étrangers tous les ménagements que réclamait la situation de la France. Elle s'est attachée aux amis les plus purs et les plus sincères de la monarchie constitutionnelle et a fait politiquement beaucoup de bien à ce qu'on assure. On l'écoutait avec un grand respect. Ses prédictions avaient été si souvent justifiées par l'événement que ce qu'on avait pris pour de l'inspiration paraissait être de l'expérience. Plus certaine elle-même de porter la conviction, et sachant que désormais elle ne pouvait être ni méconnue ni calomniée, elle parlait avec plus d'autorité. Madame de Staël avait certainement pris de la confiance en elle-même, mais sans aucun mélange de présomption. Elle paraissait d'autant plus imposante qu'elle ne parlait point en son propre nom, mais qu'on la voyait comme l'interprète des éternelles lois de l'équité. Ce n'était plus un grand maître en éloquence qui se plaît à déployer son talent. C'était un missionnaire profondément pénétré des vérités qu'il annonce. Et l'admiration dont elle était l'objet s'absorbait, pour ainsi dire, dans l'attention excitée par la question qu'elle traitait. Il ne s'agissait plus d'elle-même, il s'agissait pour chacun de ce qui lui importait le plus. Et comme elle parlait aux hommes de leurs intérêts les plus pressants, c'était leur affaire que de l'entendre. Elle a peint sous les couleurs les plus fortes, et le moment présent, et ses suites inévitables. Elle a expliqué les classes, les nations les unes aux autres, les besoins, les sentiments de tous à chacun. On sentait qu'elle annonçait vrai, et que le fait répéterait avec dureté ce qu'on se serait refusé à apprendre d'elle. Voilà pourquoi les souverains eux-mêmes l'ont écoutée avec avidité et souvent avec émotion. Et lorsque, usant de son pouvoir naturel pour ébranler les âmes, elle montrait, dans ces mêmes dispositions de la Providence qu'elle dévoilait, le soulagement d'une masse de misère, quand elle plaidait la cause sacrée et de son pays et de l'humanité, on était entraîné, attendri, électrisé par elle. C'est ainsi que la renommée de Madame de Staël s'est constamment accrue, que sa gloire déjà grande dans la France y a été comme importée de nouveau par l'enthousiasme des autres nations, et que, sans étonner les témoins de l'effet qu'elle produisait, on a pu dire que son éloquence avait hâté le renvoi de 300 000 soldats étrangers et la libération de sa patrie. Il faut comprendre, parmi les heureux effets du temps sur Madame de Staël, la fixité toujours plus grande des idées religieuses dans son esprit et l'habitude mieux contractée de les appliquer à la vie réelle. Ses scrupules, qui avaient toujours eu pour objet les conséquences de ses actions, se sont davantage attachés à leur motif. La prière, ce besoin de sentiment pour elle, la mettant sans cesse en communication avec la source de toute excellence, a fait pénétrer une pure lumière dans son cœur. « Toutes les fois que je suis seule, je prie », disait-elle à ses enfants. Elle m'écrivait de Suède au sujet de monsieur de Montmorency. Il n'y a point d'absence pour les êtres religieux, parce qu'ils se retrouvent dans le sentiment de la prière. À tout moment, on voit dans ses lettres la demande de prier pour elle et pour ses enfants. Madame de Staël pensait qu'il y a de l'orgueil dans l'homme à vouloir pénétrer le secret de l'univers, et, en parlant de la haute métaphysique, elle disait « J'aime mieux l'oraison dominicale que tout cela ». Durant ses longues insomnies, elle répétait sans cesse cette prière pour se calmer. Des soupirs, de certaines exclamations, dont elle avait l'habitude, étaient chez elle des invocations pieuses. Ainsi ces mots qui lui échappaient souvent. « Pauvre nature humaine, hélas, qu'est-ce de nous ? Ah, la vie !» était un sentiment religieux qui s'exhalait. C'était encore de la pitié en elle que cette conviction si profonde et si souvent exprimée, que la justice divine commence déjà à s'exercer sur cette terre. « La vie, disait-elle à sa fille, en appliquant à la religion une comparaison déjà connue, la vie ressemble à ces tapisseries des gobelins dont vous ne discernez pas le tissu quand vous les voyez du beau côté, mais dont on découvre tous les fils en regardant l'autre face. Le mystère de l'existence, c'est le rapport de nos fautes avec nos peines. Je n'ai jamais eu un tort qu'il n'ait été la cause d'un malheur. » Une chose qui peut paraître bizarre, c'est qu'elle appliquait cette idée de rétribution à la vie présente plus encore qu'à la vie à venir. Les auteurs catholiques, écrivait-elle, font constamment usage de l'enfer. Sans oser juger une telle croyance, je n'ai jamais senti qu'elle rendît meilleure. Néanmoins, pendant ses accès de chagrin, elle lisait souvent Fénelon, trouvant chez cet auteur une connaissance admirable des peines de l'âme. L'imitation de Jésus-Christ, qui ne lui avait pas plu d'abord, était aussi une ressource pour elle vers la fin de sa vie. Le Suédois, M. Brinkmann, dont j'ai parlé, a fait sur Madame de Staël cette remarque qu'il faut prendre dans un sens favorable. Elle avait une vénération d'enfant pour la religion chrétienne. C'est dans son dernier ouvrage qu'elle a dit ces mots sublimes. L'homme est réduit en poussière par l'incrédulité. Et cet autre, la religion est la vie de l'âme. En 1815, comme l'intolérance et les excès du fanatisme religieux étaient continuellement l'objet de son animadversion, je craignais que la religion même n'eût souffert dans son esprit de l'abus que l'on faisait de ce nom sacré. Lui ayant témoigné mes doutes à cet égard, « Je vous proteste que cela n'est pas, » me répondit-elle. « Il entre de la piété dans mon indignation. Et il n'est pas un quart d'heure, je pourrais peut-être dire moins, où l'idée de la divinité ne soit présente à mon cœur. » Néanmoins, on doit s'exprimer avec modestie lorsqu'on parle des sentiments religieux de ceux qu'on a aimés. On le doit même pour tout le monde, puisque bien des gens se croient en droit d'exiger des vertus plus qu'humaines du cœur qui nourrit ces sentiments. Mais on le doit surtout en pensant à leur objet sublime. Ce n'est pas quand on élève ses regards vers l'être suprême qu'on peut louer aucun mortel. Dieu seul est grand, ce beau mot qui a retenti sur le cercueil de Louis XIV. Ce mot peut aussi être prononcé sur le tombeau de ceux qui ont régné par la pensée. Madame de Staël parlait avec une modeste défiance de sa piété. Elle n'a jamais eu aucun orgueil, mais sous le rapport religieux, elle était véritablement humble de cœur. Le sentiment de sa supériorité l'abandonnait, soit devant ces hommes consacrés à Dieu, auxquels il a communiqué des clartés merveilleuses, soit devant ces âmes simples qu'il a purifiées à son feu. Elle se croyait en marche et non arrivée. Et quoique la religion ne puisse encore donner ici-bas ni la perfection, ni le bonheur, elle n'y voyait pas moins le seul moyen puissant d'avancer vers l'un et vers l'autre. Que cette marche ait été arrêtée, que Madame de Staël nous ait été ravie au moment où s'annonçait le plus beau développement de ses qualités comme de son talent, ce sont là des voies qu'il ne nous appartient pas de sonder. Le juge suprême évaluera tout. Il sera clément envers le génie. Ce n'est pas pour l'exposer à plus de périls qu'il lui a confié une sublime mission. Et si les hautes lumières qui lui a départies étaient envers lui un motif de sévérité, le malheur, le trouble, la fièvre ardente auquel il semble l'avoir condamné sur la terre en serait un plus grand d'indulgence. Maladie, conclusion. Parlerai-je du dépérissement d'une telle personne? Évoquerai-je des images que le sort m'a épargnées, en la montrant aux prises pendant des mois entiers avec la souffrance, avec la mort? Oserais-je me représenter cette imagination si redoutable, cet esprit si pénétrant, porté sur les progrès de la maladie, qui livrait peu à peu à l'engourdissement les organes de l'être le plus actif, le plus mobile, le plus vivant de tous? Ah, que cet affreux tableau, qui ne s'offre que trop à ma pensée, soit tracé par d'autres que par moi. Mais comme dans la maladie de Madame de Staël il est des circonstances moins douloureuses pour ses amis, comme il en est de consolantes même, c'est sur celle-là sans doute qu'il me sera permis de m'arrêter. Pendant cette cruelle épreuve, son caractère ne s'est point altéré. Et si elle a montré parfois ce qui est bien naturel, sa grande capacité de douleur morale. Jamais ses plaintes n'ont été des murmures, jamais elle ne s'est révoltée. Au milieu des agitations terribles qui passent si rapidement du physique au moral dans des mots de cette espèce, son inaltérable douceur ne s'est pas un instant démentie. Elle a été, jusqu'à son dernier soupir, tendre, confiante comme un pauvre enfant, et profondément reconnaissante envers ceux qui l'entouraient, envers l'amie incomparable, Mademoiselle Randall, dont les soins ont été aussi touchants que son attachement était profond. On lui a vu constamment exercer les vertus qui l'ont distinguée, et dans ses jours les plus douloureux, elle s'est occupée à rendre des services. La grâce d'un condamné, Barry, qu'elle avait sollicité pendant sa maladie, a même été obtenue de la bonté du roi, le lendemain de sa mort. En sorte qu'elle a fait du bien, même après avoir expiré. On a encore entendu d'elle des mots charmants, dans son genre particulier. « J'ai toujours été la même, vive et triste », a-t-elle dit à M. de Chateaubriand. « J'ai aimé Dieu, mon père et la liberté. » En citant ces paroles de Fontenelle, « Je suis français, j'ai 80 ans, et je n'ai jamais donné le moindre ridicule à la plus petite vertu », elle ajoutait, « Voilà ce que je puis dire de la plus petite peine. » Sans doute, elle a vivement regretté ses enfants et ses amis. Le stoïcisme, ou le genre particulier d'exaltation, qui peut fermer le cœur aux douleurs de la séparation, n'était pas dans son caractère. Sa fille, surtout, lui a coûté bien des soupirs. Avec une telle fortune de cœur, a-t-elle dicté pour moi en parlant des objets de ses affections, avec une telle fortune de cœur, il est triste de quitter la vie. Je serais bien fâchée, a-t-elle dit encore, que tout fût fini entre Albertine, Madame de Breuil, et moi, dans un autre monde. Mais elle a regretté la vie plutôt qu'elle n'a véritablement redouté la mort. Elle a pu craindre les dernières souffrances. Une imagination telle que la sienne a pu concevoir quelque horreur à l'idée, terrible pour tous, de la dissolution matérielle. Mais le trépas moralement considéré ne lui a pas causé d'effroi. Elle a conservé assez de calme pour désirer encore dicter à M. Schlegel la peinture de ce qu'elle éprouvait. Toujours sa pensée s'est portée, avec espérance, vers son père et vers l'immortalité. « Mon père m'attend sur l'autre bord, » disait-elle. Elle voyait son père auprès de Dieu et ne pouvait voir dans Dieu même autre chose qu'un père. Ces deux idées étaient confondues dans son cœur, et celle d'une bonté protectrice était inséparable de l'une et de l'autre. Un jour, en sortant d'un état de rêverie, elle dit « Je crois savoir ce que c'est que le passage de la vie à la mort, et je suis sûre que la bonté de Dieu nous l'adoucit. Nos idées se troublent et la souffrance n'est pas très vive. » Sa confiance n'a pas été trompée. La plus profonde paix a présidé à ses derniers moments. Longtemps avant qu'elle eût expiré, la grande lutte était terminée, et son âme s'est envolée avec douceur. Telle a été la fin de Madame de Staël, le génie le plus aimant qui ait peut-être jamais existé. L'histoire des regrets, du vide affreux qui ont suivi sa perte, est celle du reste de notre vie, et n'appartient plus à la sienne. Mais, pour laisser une impression moins douloureuse et plus salutaire, j'essayerai d'embrasser le cours de ses pensées sous le point de vue religieux, le seul qui permette de saisir l'ensemble d'une destinée et ses rapports avec le sort général de l'humanité. S'il est intéressant pour le moraliste de connaître les faits de la vie, de savoir quel est dans un esprit éclairé le résultat naturel des scènes qui se succèdent assez régulièrement dans notre existence, jamais cet examen ne sera plus instructif que lorsque Madame de Staël en deviendra l'objet. Trop avide de bonheur, trop ardente dans tous ses vœux pour s'être soustraite aux grandes chances et avoir évité les vicissitudes du sort, chaque événement a fait impression sur un cœur très sensible et laissé sa leçon dans un esprit singulièrement observateur. Elle a donc subi l'action de la vie dans toute sa force et tirer de la vie même tout l'enseignement qu'elle peut donner. Mais quel est cet enseignement? Y a-t-il un dessein bienfaisant dans l'ordonnance générale de la destinée humaine? C'est ce dont Madame de Staël était persuadée. Elle voulait écrire un livre qu'elle aurait intitulé « Éducation du cœur par la vie ». Le projet seul de composer un tel ouvrage montre en elle le sentiment d'une continuelle amélioration. Examinons rapidement l'éducation que lui a donnée la vie. Douée de l'âme la plus expansive, dans cet âge où l'agrandissement des facultés semble être commandé à toute la création animée, elle étend, elle exerce sans cesse son esprit. L'amitié, la tendresse filiale ont en elle un caractère exalté. Les premières impressions religieuses sont reçues comme un sentiment de plus, et peut-être comme la source des plus sublimes émotions. Mais bientôt arrive la jeunesse, cet âge à la fois raisonneur et enthousiaste, où le cœur croit tout et où l'esprit ne croit rien, où l'examen de toutes les questions conduit à la récusation de tous les jugements, et où, bien souvent, un âpre stoïcisme dans les principes ne laisse que plus de prise au sophisme des passions. L'influence de cette saison de la vie et celle d'un siècle en accord avec elle peut se faire sentir chez Madame de Staël. Mais l'idée de la divinité n'est pas altérée dans son cœur, et une faculté d'observation prématurée l'amène bientôt à ce grand résultat. C'est que dans les passions, il n'est pas de bonheur. Tous les sentiments terrestres sont déclarés dangereux par elle. Et dans le naufrage des espérances, elle ne voit pour ressource assurée que la charité et la résignation, deux vertus éminemment chrétiennes, auxquelles elle rend hommage sous d'autres noms. Mais ensuite, portant son regard investigateur sur l'histoire et sur les travaux de l'esprit humain, elle s'étonne de ce qu'elle découvre. Et le christianisme se montre à elle sous son vrai jour. Frappée de sa grande influence, elle l'est davantage de sa beauté. Elle sent qu'une harmonie secrète avec le cœur, avec tout ce qu'il y a de bon et d'élevé dans notre nature, peut seule expliquer de tels effets. Et, peu à peu, elle se prépare à recevoir, comme une loi divine, une loi salutaire pour le genre humain. L'expérience du secours, de l'intime consolation attachée à la prière, fortifie en elle cette disposition. Mais il appartenait à la douleur de régénérer son âme entière et d'ouvrir son cœur à la foi chrétienne. Quand on pense que cette même route, parcourue avec tant d'éclat par Madame de Staël, dans une région supérieure, est suivie par d'innombrables créatures dans la sphère assignée à chacune d'elles, quand nous voyons se succéder, dans presque toutes les destinées, les illusions des passions, puis leurs espérances déçues, puis cette observation des individus et de la société qui conduit à sentir les avantages de la religion pour la moralité, pour la paix, pour l'union des familles. Puis enfin, ces douleurs inévitables de l'âge mûr, ces douleurs dénuées des pompeuses émotions de la jeunesse, ces douleurs où le cœur, privé du pouvoir de se distraire et conservant celui de souffrir, ne peut plus écouter que la voix qui promet une autre existence. Quand, dis-je, nous considérons l'ensemble de cette ordonnance, ne nous semble-t-il pas qu'elle a été calculée pour soumettre le cœur à l'empire de la religion, et que l'être, qui est le commencement et la fin, l'origine et le terme, ne nous a lancé un moment sur le fleuve de la vie que parce que le cours de l'onde tend à nous ramener à lui. Madame de Staël a fait beaucoup de bien dans son siècle, et je ne considère ici ni les secours de tout genre qu'elle a prodigués à l'infortune, ni la masse immense de plaisirs et d'instructions qu'ont répandu sa conversation et ses ouvrages. Ce que je me plais surtout à penser à cette heure, c'est qu'elle a été utile à la cause sacrée de la religion. Elle a peut-être été d'autant plus qu'elle n'a pas professé le but formel de plaider cette cause, mais qu'une persuasion profonde, un sentiment intime et puissant, éclate involontairement dans ses écrits. comme elle n'annonçait aucun dessein, l'incrédulité n'a pu s'armer d'avance contre elle. C'est toujours avec douceur, avec simplicité, qu'elle s'est présentée. Elle n'a point parlé en docteur de la loi, ni en prédicateur sévère, mais, tirant un nouveau genre de force précisément de ce qu'elle a connu, de ce qu'elle a aimé, tout ce qui peut charmer le cœur et l'esprit sur la terre, elle a dit aux gens du monde, aux hommes d'État, aux littérateurs, « Tous les intérêts qui vous animent m'ont occupé, mais j'ai senti qu'il n'existait rien de grand ou de durable sans la religion. Il n'y a qu'elle pour la morale, appui de la société. Il n'y a qu'elle dans l'infortune. Et sans elle, le talent même est privé de sa plus haute inspiration. Ceux qui ne se sont jamais élancés vers le ciel n'ont pas ravi l'étincelle créatrice, et ils n'obtiendront pas même l'ombre d'immortalité que dispense la renommée. » Un génie, pareil à celui de Madame de Staël, est le seul missionnaire possible dans un monde savant et raisonneur, frivole et dédaigneux. Sans entrer dans le temple même, elle s'est placée sur le parvis et a préludé au chant sacré devant cette multitude païenne de cœurs qui encense les muses et lapide les prophètes. Mais c'est aux êtres sensibles qu'elle s'est adressée de préférence. Et, comme le grand apôtre qui avait trouvé dans Athènes un autel consacré à une divinité inconnue, elle a dit aux âmes tendres et enthousiastes, « Le Dieu inconnu que vous adorez, c'est celui que nous vous annonçons. »